Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labouroir. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard. Aujourd'hui, Le prophète de Khalil Gibran. Le prophète est un livre du poète libanais Khalil Gibran, publié en 1923 en anglais et qui est devenu un immense succès international, traduit dans plus de 40 langues. L'ouvrage combine les sources orientales et occidentales du mysticisme et présente sous une forme poétique questions et réponses sur les thèmes les plus divers posés à un sage qui s'apprête à quitter la ville d'Orphalèse où il habitait. Il fut traduit en langue française dès 1926. Les principaux thèmes abordés, l'amour, le mariage, les enfants, le don, le manger et le boire, la joie et la tristesse, les maisons, les vêtements, acheter et vendre, crimes et châtiments, les lois, la liberté, la raison et la passion, la douleur, la connaissance de soi-même, l'enseignement, l'amitié, la parole, le temps, le bien et le mal, la prière, le plaisir, la beauté, la religion, la mort. Khalil Gibran fut un des pionniers du réveil des lettres arabes à la fin du XIXe siècle. Khalil Gibran est né en 1883 à Béchareh, au Liban, dans une très ancienne famille chrétienne. Il est l'aîné des quatre enfants. Son grand-père maternel était prêtre du rite maronite. Vers 1891, le père de Gibran est incarcéré sur des allégations de détournement de fonds et les biens de sa famille sont confisqués par les autorités ottomanes. En 1894, il émigre avec sa mère, couturière, et ses frères et sœurs, à Boston, où vit à l'époque la deuxième plus grande communauté syro-libanaise des États-Unis. Mais en 1897, il retourne seul au Liban pour faire ses études à l'École de la Sagesse, à Beyrouth. En 1901, il visite la Grèce, l'Italie, l'Espagne et s'installe à Paris pour étudier la peinture. En 1903, Gibran est rappelé en Amérique au chevet de sa mère mourante. Il reste à Boston, où il s'exerce principalement à la peinture. En 1906, il retourne à Paris, où il travaille à l'Académie Julian et à l'École des Beaux-Arts. Il fréquente Rodin, Debussy, Maeterlinck, Edmond Rostand. En 1910, il s'installe définitivement à Boston, où il se consacre à la peinture et à la poésie. Pendant 19 années, il aura entretenu une correspondance avec Méziade, première féministe et première femme de lettres arabes à être publiée de son vivant. Celle-ci évolue en une histoire d'amour platonique. Les deux personnes ne se sont jamais rencontrées. Cette correspondance commence en 1912 et finit par la mort de l'écrivain en 1931, sans qu'aucun des deux écrivains ne révèle à l'autre explicitement ses sentiments. Lorsque Gibran s'apprête à publier Le Prophète en 1923, Méziade publie « Ténèbres et lueurs », recueil de textes disparates constitués de méditations philosophiques, de poèmes en prose et d'écritures métaphoriques. Quand Gibran décède en 1931, Méziade sombre dans une profonde dépression dont elle ne se relèvera jamais. Le corps de Khalil Gibran est ramené au Liban en 1932, où il repose désormais dans la crypte du monastère de Marsarkis, à Béchareh. Et une femme qui portait un enfant dans les bras dit « Parlez-nous des enfants. » Et il dit « Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non point vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez accueillir leur corps, mais pas leur âme, car leur âme habite la maison de demain que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer d'être comme eux, mais ne tentez pas de les faire comme vous, car la vie ne va pas en arrière, ni ne s'attarde avec hier. Vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés. L'archer voit le but sur le chemin de l'infini, et il vous tend de sa puissance pour que ces flèches puissent voler vite et loin. Que votre tension par la main de l'archer soit pour la joie, car de même qu'il aime la flèche qui vole, il aime l'arc qui est stable. Alors une femme dit « Parlez-nous de la joie et de la tristesse. » Et il répondit « Votre joie et votre tristesse sans masque, et le même puits d'où fuse votre rire fut souvent rempli de vos larmes. Et comment serait-il autrement? Plus profondément, le chagrin creusera votre être, plus vous pourrez contenir de joie. La coupe qui contient votre vin n'est-elle pas la même coupe qui fut cuite dans le four du potier? Et le luth qui caresse votre âme n'est-il pas le même bois qui fut évidé au couteau? Lorsque vous êtes joyeux, regardez profondément votre cœur et vous trouverez ce qui vous apporte de la joie n'est autre que ce qui vous a donné de la tristesse. Lorsque vous êtes triste, regardez à nouveau en votre cœur et vous verrez qu'en vérité, vous pleurez pour ce qui fut votre délice. Il y en a parmi vous qui disent « La joie est plus grande que la tristesse » et d'autres disent « Non, la tristesse est plus grande ». Mais moi je vous dis qu'elles sont inséparables. Ensemble elles viennent, et quand l'une vient s'asseoir seule avec vous à votre table, rappelez-vous que l'autre dort sur votre lit. En vérité, vous êtes suspendu comme une balance entre votre tristesse et votre joie. Ce n'est que lorsque vos plateaux sont vides que vous êtes immobile et en équilibre. Lorsque le gardien du trésor vous soulèvera pour peser son or et son argent, il faudra que votre joie ou votre tristesse s'élève ou s'abaisse. Alors, Almira parla, disant « Nous voudrions maintenant vous questionner sur la mort. » Et il dit « Vous voudriez connaître le secret de la mort. » Mais comment le trouverez-vous sinon en le cherchant dans le cœur de la vie? La chouette dont les yeux faits pour la nuit sont aveugles au jour ne peut dévoiler le mystère de la lumière. Si vous voulez vraiment contempler l'esprit de la mort, ouvrez amplement votre cœur au corps de la vie. Car la vie et la mort sont un, de même que le fleuve et l'océan sont un. Dans la profondeur de vos espoirs et de vos désirs, repose votre silencieuse connaissance de l'au-delà. Et tel des grains rêvant sous la neige, votre cœur rêve au printemps. Fiez-vous aux rêves, car à eux est cachée la porte de l'éternité. Votre peur de la mort n'est que le frisson du berger lorsqu'il se tient devant le roi dont la main va se poser sur lui pour l'honorer. Le berger ne se réjouit-il pas, sous son tremblement, de ce qu'il portera l'insigne du roi? Pourtant, n'est-il pas plus conscient de son tremblement? Car qu'est-ce que mourir sinon se tenir nu dans le vent et se fondre dans le soleil? Et qu'est-ce que cesser de respirer sinon libérer le souffle de ces marées inquiètes pour qu'il puisse s'élever et se dilater et rechercher Dieu sans entrave? C'est seulement lorsque vous boirez à la rivière du silence que vous chanterez vraiment. Et quand vous aurez atteint le sommet de la montagne, vous commencerez enfin à monter, et lorsque la terre réclamera vos membres, alors vous danserez vraiment. C'était la chronique littéraire de Gilles Labouroir. À bientôt.